pour l'accueil de l'église des Chinois à Paris, qui nous prête gratuitement leurs locaux cette journée et depuis plusieurs années. Donc, merci beaucoup à Pascal et à l'église. Quelques informations pratiques avant de commencer. Il y a des toilettes derrière et aussi à l'étage. Il y a un stand de livres au fond, donc profitez pendant les pauses. Et si vous avez un téléphone qui risque de sonner, c'est le moment de le mettre sur mode silencieux ou de l'éteindre. Si vous n'avez pas encore payé l'inscription ou le repas, vous pouvez le faire pendant la pause. Et il y a aussi un petit livret de résumés qui est aussi disponible à l'accueil pour vous donner une petite idée des différentes interventions. Et aussi cet après-midi, on aura une vidéoconférence en anglais. Donc il y a quand même deux pages en français si vous voulez lire ça avant pour mieux suivre si vous êtes moins à l'aise avec l'anglais. Cette année, nous avons choisi pour thème le temps, cette denrée rare dont on n'a jamais assez. Les différents intervenants vont nous parler du concept du temps d'un point de vue physique, biologique, psychologique et théologique. Et je vous propose quelques versets du psaume 90 pour commencer notre journée. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fend et se flétrit. Je vous invite à la prière pour commencer notre journée. Seigneur notre Dieu d'éternité, nous te remercions pour cette occasion de nous réunir ce matin. Seigneur, nous prions que tu nous parles aujourd'hui, que tu nous instruis, que tu bénis nos discussions, nos réflexions, et que nous puissions vraiment vivre avec la sagesse que tu nous donnes pour bien utiliser le temps que tu nous accordes. Pour ta gloire. Amen. Et nous avons le plaisir maintenant d'écouter Thierry Huser, qui est pasteur de l'Association Baptiste et chargé de cours à la Faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine, qui va nous conduire pour une méditation biblique sur l'Ecclésiaste 3. Merci Thierry.
Je vous invite à lire ensemble le texte que nous allons méditer. C'est une méditation sur un texte biblique que nous voulons recevoir tel qu'il est écrit et en le laissant retentir aussi par rapport à notre réflexion sur le temps. Ecclésiaste chapitre 3, nous lisons les versets 1 à 17. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité pour que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant sa vie. Mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Et j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Jusqu'ici, notre lecture. Voilà un texte où s'unissent admirablement la forme et le sens. C'est sur un rythme bien martelé que l'Ecclésiaste nous décrit l'existence sous le soleil, marquée par la temporalité et la fugacité. Il y a un temps pour, un temps pour, un temps pour et un temps pour. Il conviendra de déterminer si cette rythmique se veut tyrannique ou apaisante, mais le ton est donné par le choix même de la forme. C'est l'existence sous le soleil qui est décrite. Les descriptions concrètes des temps de cette vie montrent qu'est visée l'existence humaine, tant pour bâtir, planter, déchirer. C'est d'ailleurs cette existence humaine et les questionnements sur cette existence qui font le fil conducteur de la réflexion de l'Ecclésiaste. Dès l'ouverture de son propos, il pose la question « Que reste-t-il à l'homme ?» de la peine qu'il se donne sous le soleil. Il décrit ensuite au chapitre 2, sur le mode du témoignage, différents aspects de l'existence humaine et de sa vanité avec la question qui conclut « Que revient-il à l'homme de toute la peine et de la préoccupation qu'il se donne sous le soleil ?» Et cette même question revient au terme des temps qui rythment le début du chapitre 3, « Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend ?» Nous voilà donc renvoyés au temps vécu, au temps concret, au temps des travaux et des jours, et à son impact sur le sens de notre existence. Le temps nous questionne quant à sa nature. Qu'est-ce que le temps ? A-t-il une réalité propre ? Ou n'est-il que le produit de notre esprit ? Mais il nous questionne encore bien plus d'un point de vue existentiel. Parler du temps, c'est parler de notre vie, dans son déroulement, ses successions, ses limites. Nous éprouvons le temps dans ce qui advient, dans ce qui se défait, dans ce qui se construit, dans ce qui se délite. Tout est en mouvement, et l'Ecclésiaste le dit, et nous aussi. On ne baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Des continuités existent, certes, et elles nous sont perceptibles. Mais mises en perspective, ces continuités sont souvent bornées et limitées. Les jours s'en vont, je demeure, chantait Apollinaire, convoquant l'image du pont Mirabeau sous lequel coule la Seine. Et cette arche de ce pont sous lequel coule la Seine est tellement contrastée. Le pont permet de surplomber le cours de ce qui passe, mais on y est aussi témoin de l'inexorable écoulement des jours et des amours. Ce pont dit la résistance et la fragilité du jeu, qui demeure suspendu, mais qui un jour ne sera plus comme tout ce qui passe. Ainsi éprouvons-nous le temps dans son épaisseur existentielle immense. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui s'envole? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui ne tient pas? Quelle est la fin de toute chose? Y a-t-il quelque part une finalité? Le livre de l'Ecclésiaste nous invite à considérer la vie telle qu'elle est. Et je fais référence ici à un commentaire de Sylvain Romerovski. Nous avons besoin d'un tel regard lucide pour ne pas faire de notre foi une sorte d'échappatoire hors de la réalité. Mais l'Ecclésiaste nous invite aussi à voir les choses du point de vue de ce que fait Dieu. Et la structure de notre texte nous le dit, il est très clairement construit en deux volets. D'abord la réalité humaine, les versets 1 à 8, puis l'œuvre de Dieu. Les deux ne s'opposent pas. Au cœur de la foi biblique, il y a la certitude que Dieu inscrit son action dans notre histoire. Parfois c'est clair et net, parfois plus difficile à discerner. Nous sommes invités à une foi lucide, une foi honnête qui intègre toute la réalité, les choses que l'on découvre sous le soleil, dans un monde marqué par le mal et la fragilité, et ce que l'on peut affirmer du point de vue de Dieu. Notre texte décrit donc d'abord et rythme les différents temps de notre vie. Quel est le sens de ce mot « temps » qui revient comme un refrain, un temps pour toute chose? Certains voudraient y voir une sorte de temps qu'on pourrait appeler optimisé, c'est-à-dire un moment opportun, une occasion favorable. Et la liste des temps inviterait dans cette perspective à découvrir dans chaque situation de notre vie l'opportunité particulière de chaque chose et la façon de l'envisager qui lui donnerait sens. Mais c'est surcharger le sens du mot que de le considérer ainsi. L'ensemble des usages de ce mot « temps » invite à beaucoup plus de sobriété. Un temps pour désigne simplement une durée limitée, intervenant à un moment donné dans le cours d'une existence. Les différentes situations évoquées par ce texte surviennent dans notre vie, y prennent place pour une certaine durée, s'enchaînent les unes aux autres. Il nous revient d'intégrer, d'assumer ces temps. Et l'Ecclésiaste nous prévient qu'il y a là une occupation pénible, qui nous ramène à notre juste mesure et nous laisse parfois bien perplexes. Comment ces temps sont-ils décrits? C'est d'abord la diversité des temps de notre vie que le sage fait ressortir. Il met en lumière 28 types de temps différents, et chacun de ces temps peut recouvrir des situations concrètes différentes elles aussi. Et vu sous l'angle de cette énumération, le sage nous rappelle que notre vie est une mosaïque qui se construit avec une multitude de pièces, toutes différentes les unes des autres. Certaines sont riches en couleurs, d'autres moins, mais la diversité est une composante essentielle de ce que nous vivons. Restons sur le registre mathématique pour remarquer que le sage a organisé ses 28 points en deux séries de 14. Tout est traversé par une ligne de partage. Ainsi se dessinent des paires tout en contraste. La diversité prend ici une autre couleur. Nous connaissons des heures ou des tranches de vie en opposition ou en contraste avec les unes avec les autres. Ce qui se construit à un moment se délite à un autre, comme si nous étions sous le signe d'une grande contradiction. Alors la vie est-elle une fois 28 ans, ouverte à tous les possibles? Ou est-elle deux fois 14 ans dont l'opposition nous heurte? Faut-il chanter la grande diversité ou se lamenter de la grande contradiction? On remarquera en tout cas que le sage ne s'est pas contenté de décrire 7 temps d'un côté et 7 temps de l'autre. Pourtant, dans la Bible, le chiffre 7 est le chiffre de la totalité. Le sage ici double la mise avec deux fois 7 paires. une façon peut-être de nous dire que malgré la brièveté, la fragilité de notre vie, nous en avons des possibilités. Là où nous disons souvent « je n'ai pas le temps », le sage répondrait « il y en a des temps ». Nous voilà donc invités en tout cas à intégrer l'ensemble des éléments qui font la trame de notre vie. Une perspective bienfaisante, nécessaire, car notre regard à nous est souvent bien plus sélectif, tellement plus réducteur. Pour certains, la vie n'est constituée que des grands moments de l'existence, le temps des grandes réalisations où l'on bâtit quelque chose, le temps des rires, le temps des danses où l'on s'éclate, les temps d'espoir où on plante du neuf, les temps de bonheur où l'on aime, où l'on embrasse. Tout le reste est quasiment hors la vie, ni considéré, ni apprécié. C'est la vision de la vie que façonne, entre autres, le cinéma qui doit sélectionner pour donner du rythme et de l'intensité. Hitchcock disait « Le cinéma, c'est la vie sans tous ces moments monotones. » Et ça vous compresse comme ça toute une vie entière en 1 heure et demie. Mais que deviennent alors les longueurs du temps et tous les actes répétitifs, banals, qui font la trame de notre quotidien? Entre les grands moments, il y a une vraie vie signifiante à laquelle il nous faut prêter attention et donner sens. Un petit ouvrage publié récemment nous le rappelle. Il s'intitule « Liturgie de la vie ordinaire ». Ce petit bijou plein de fraîcheur valorise le quotidien, ses gestes simples, montre leur signification profonde si on y prête attention. L'Ecclésiaste nous invite à intégrer les temps tout simples où l'on ramasse des pierres, où l'on cherche, où l'on recoue la vie ordinaire. Si certains ne vivent que les grands moments, d'autres, au contraire, ne voient que les temps les plus exigeants de leur vie. Leur vie n'est que pleurs, déracinements, déchirures ou silence. L'Ecclésiaste, lui, nous invite à considérer aussi les temps du rire, de l'étreinte, de la parole, des réparations. D'autres encore sont désarçonnés de découvrir dans leur vie les contrastes que décrit le sage. De telles oppositions entre les temps d'ombre et les temps de lumière ne sont pas normales, se disent-ils. Le sage, lui, nous invite à refuser ces réductions dans un sens comme dans l'autre. La trame de notre vie est faite de cette diversité. Il ne faut s'en laisser ni désarçonner, ni surprendre. C'est l'invitation à un regard réaliste. Réaliste, mais serein. Car il y a quelque chose d'apaisant dans la manière dont sont enchaînées les expressions « un temps pour une chose et un temps pour une autre ». On a l'impression d'une sorte de collier où l'on enfile les perles l'une après l'autre. Dans cette régularité, on commence à pressentir que chaque temps peut faire partie d'un tout. Et puis voilà quelqu'un de bien vivant, de bien réel, qui nous parle de tout cela en l'ayant vécu. On peut donc se construire dans cette diversité, l'assumer avec lucidité, la considérer avec sérénité. Mais cette succession nous rappelle aussi que nous sommes des êtres limités, marqués par la finitude. Il y a un temps pour toute chose. Aucune ne dure indéfiniment. La succession des temps dit aussi d'une certaine façon leur fragilité. Même si certains temps sont appelés à durer plus longtemps que d'autres, on espère ainsi que le temps pour aimer soit un temps très long, très marquant de notre vie. Mais on sait que ce n'est pas donné d'avance et qu'il faudra parfois pour cela continuer à bâtir, à semer, à réparer ce qui a été déchiré, pour que ce temps d'aimer, par exemple, puisse durer et tenir. Ainsi vont les choses. Des constantes sont possibles, de vraies constantes sont possibles, mais sur fond, malgré tout, de fragilité. La finitude caractérise, nous le savons, notre vie dans son ensemble. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. On donne la vie, mais on ne la possède pas. Elle marque aussi nos actions. Il faut parfois arracher, démolir. Il arrive que l'on perde. Certaines choses doivent être jetées, sont déchirées. Tout cela parle de fragilité. Et cela nous affecte. Il y a les temps du rire et de la danse. Il y a aussi les temps des pleurs et des lamentations. Il y a les temps de la parole et ceux où il n'y a rien à dire. On est là sur un registre plus subjectif et il nous rappelle combien nous sommes dépendants de ce qui survient, affectés par les circonstances de notre vie. Les constances sont possibles, mais elles exigeront ressourcement et renouvellement intérieur. Et puis, il y a la réalité du mal, qui rend les choses douloureuses, blessantes. Le sage ne cache pas ce versant de la vie. Il est question de tuer, de mourir, de haïr, des temps de guerre. Ce ne sont pas des choses qui devraient être, mais elles sont. On ne les choisit pas toujours. Très peu veulent la guerre, mais beaucoup la subissent lorsqu'elle survient. Le mal est dans le monde, et s'il nous faut le refuser en nous, il fait partie de la réalité au sein de laquelle nous vivons. Mais l'espérance demeure également. Et c'est la seconde note qui est partout affirmée. Il y a certes un temps pour la mort, celle des personnes et des choses, mais il y a aussi un temps pour l'enfantement, qui dit la force de la vie. Et dans notre vie prennent place des réalités aussi positives que celles de planter, bâtir, garder, étreindre, aimer. La trame de notre vie, c'est aussi des temps pour guérir, pour recoudre et réparer ce qui a été déchiré, pour travailler à la paix. Et les temps du rire et de la danse disent la force et la beauté de ces choses quand on les vit. Comment se mêlent donc ces deux aspects de la réalité entre fragilité et espérance? Le modèle est-il celui, par exemple, du verset 2, où on part du positif pour aller vers ce qui est plus négatif, un temps pour planter et un temps pour arracher ce que l'on a planté? Cela voudrait dire que toutes les réalités positives sont finalement happées dans la finitude. Ou le modèle est-il, au contraire, celui du verset 7, où l'on parle d'une réalité difficile pour aller vers sa réparation? Il y a un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, ce qui voudrait dire que, aussi négative que soit une situation, il reste toujours des ressources d'espérance. L'Ecclésiaste ne choisit pas un modèle plutôt qu'un autre. Il ne veut pas nous faire désespérer de tout en terminant systématiquement ses pères par un terme négatif. Mais pas de triomphalisme de l'espérance non plus, même si la note de l'espérance est bien présente, avec toutes les pères qui se terminent positivement. En regardant les choses, le sage garde l'espérance, mais il la garde humble, il la garde modeste. Le balancement des temps nous rappelle que notre vie ne se réduit jamais à un aspect des choses. Suis-je en train de faire l'expérience d'un temps où il faut arracher, démolir ou subir des déchirures? Je peux me rappeler que tout ne se réduit pas à cela. Il reste aussi un temps pour planter, bâtir, recoudre, et Dieu sait y veiller. Mais au jour où l'on construit, où l'on rit, où l'on danse, il faut se souvenir que ces temps, nous n'y sommes pas installés définitivement non plus. Alors serions-nous sous le signe de la grande incertitude, où l'on ne sait jamais à quel temps on va être croqué? L'Ecclésiaste a soin de nous ouvrir à une autre perspective, celle de l'action de Dieu. Et c'est le sujet des versets 10 à 17. Que nous dit-il? La réalité ne se résume pas au temps contrasté de notre vie, mais il y a, au travers de tout cela, une œuvre que Dieu fait, avec un commencement et une fin. Et voilà soudain Dieu comme sujet. Le temps, les temps ne sont pas maîtres du jeu, Dieu est à l'œuvre. Et c'est une composante essentielle de toute réflexion chrétienne sur le temps. Quoi qu'on dise sur le temps, sur sa réalité ontologique ou subjective, le temps est transcendé, surplombé, maîtrisé par un Dieu infini et personnel, qui possède et maîtrise toutes les sources et ressources de sa vie et qui déploie son dessein et son œuvre. Dans une vision du monde qui refuse cette transcendance, le temps, s'il est autre chose qu'une simple forme de l'esprit humain, devient une réalité quasi ultime. C'est ce que développe avec lucidité André Comte-Sponville dans son ouvrage « L'être-temps ». Dans la ligne de Spinoza, Comte-Sponville refuse toute transcendance d'un Dieu personnel. L'être, dans sa persistance et son déploiement, est la réalité ultime. Et Comte-Sponville argumente que d'un point de vue ontologique, le seul temps est le présent continué, car le futur n'est pas encore, donc n'est pas, et le passé n'est plus. Il donne à ce présent une vraie densité et refuse à considérer le présent, à le limiter à la simple limite d'un instant sans consistance. Ce présent continué exprime la persistance de l'être. L'être dans sa persistance. Mais, continue Comte-Sponville, ce présent continué est lui-même l'éternité. Et en effet, que serait-elle d'autre l'éternité si seul le présent est ? Dans la même logique, le présent est aussi la matière, la présence des corps ne dépendant pas de l'esprit, et la nécessité est l'acte, car la force du présent, c'est l'actualisation des possibles. Le présent devient ainsi un quasi-absolu, la puissance de l'être dans son déploiement. En résumé, le temps est l'être même à quoi rien ne s'ajoute. Précision, il s'agit de l'être dans sa persistance et son mouvement. Pour l'Ecclésiaste et pour la Bible, Dieu surplombe et transcende le temps. On ne peut donc parler du temps que comme parfaitement maîtrisé en Dieu, si le temps existe pour lui, ou comme un cadre donné par le Créateur à sa création. Dans ce cadre, on peut accepter bien des analyses de Comte-Sponville, mais au-dessus du temps, il y a toujours un Dieu personnel et transcendant. Ce Dieu a un dessein qui est mis en œuvre dans l'histoire. Le présent est transcendé par ce dessein. Il est porté par lui. Il advient par lui. Il reçoit de lui sa finalité. Ce Dieu, nous dira Paul, est capable d'appeler à l'être ce qui n'est pas. Autrement dit, le présent, même continué, est appelé avant d'advenir, pensé, voulu, inscrit dans un projet. C'est en tant qu'appelé que le présent advient. Il y a là une antériorité, celle du projet, et un futur, celui de la promesse, qui n'est pas encore, mais qui est annoncé, dont le terme est fixé, et qui marche vers ce terme. Parler de projet ou de dessein, ou comme le dit l'Ecclésiaste, parler de l'œuvre que Dieu fait, c'est introduire une précédence, une antécédence, et un avenir aussi pour cette antécédence dans la pensée de Dieu et qui s'accomplit par son actualisation, à chaque actualisation. C'est ce qui permet aussi d'attendre et d'espérer des choses nouvelles selon ce même projet. Ainsi Dieu se manifeste-t-il non seulement comme celui qui fait advenir le présent, mais aussi comme le Dieu de la promesse, le Dieu du départ. Un Dieu dont le nom est un nom de route, dont on saisit la vérité dans une histoire. Voici la une perspective que nous donne cette affirmation de Dieu comme sujet transcendant par rapport au temps. Comment nous est décrite l'action de Dieu en relation avec le temps dans notre texte? Première chose que l'on peut dire, c'est que Dieu nous veut dans le temps. L'Ecclésiaste part de ce que nous vivons, de ce qu'il appelle notre occupation, tout ce qu'il vient d'énumérer des différents temps de notre vie. Et nous dit-il, Dieu nous y soumet. Dieu nous donne cette occupation avec charge pour nous de nous y appliquer. J'ai vu l'occupation à laquelle Dieu soumet les humains afin qu'ils s'y occupent. Et la racine du verbe « s'occuper » évoque aussi l'humilité. Dieu nous veut dans le temps. C'est donc avec une persévérance humble, laborieuse, soumise à des contraintes qu'il nous faut affronter les réalités et les temps de notre vie. Nous ne choisissons pas tout, nous n'avons pas la maîtrise sur tout, mais il nous faut quand même assumer. L'Ecclésiaste nous parle ici de notre action, à laquelle Dieu nous soumet pour nous y occuper, et en disant qu'il y a aussi quelque chose qui nous garde à notre place. Mais au chapitre 1er, il avait dit la même chose de la réflexion. La réflexion est une tâche pénible, la réflexion sur les choses que Dieu donne aux humains afin qu'ils s'y occupent. Il nous faut nous y atteler, mais sans pouvoir tout maîtriser. On est loin d'une visée triomphaliste où déjà le croyant posséderait tout, régnerait sur tout. Nous restons dans l'humilité d'hommes et de femmes qui ne maîtrisent pas tout dans le monde mêlé qui est le nôtre. Mais Dieu nous engage à agir et à chercher la sagesse au cœur de cette réalité-là. Dieu nous veut dans le temps. Mais ce temps où Dieu nous veut est un temps dans lequel Dieu agit. Il fait toute chose belle en son temps. Il fait. Dieu agit, s'implique, injecte du neuf, injecte de lui au cœur de nos réalités. Il fait toute chose belle, nous dit le texte. Pas juste bonne, mais belle. Ce qui est beau, c'est ce qui est bon d'abord, bien sûr, dans la perspective de Dieu, mais avec une qualité particulière. Cela suscite aussi l'admiration, cela apporte une satisfaction, cela participe à une harmonie. L'œuvre que Dieu fait a cette qualité-là, c'est sa signature. Ce qui signifie que toutes les disharmonies qui marquent notre vie ne sont pas de lui. Ce que Dieu injecte dans notre temps est beau. Mais à cet égard, Dieu sait faire dans le neuf, mais aussi, précisons-le, dans la restauration de l'ancien ou dans la restauration de ce qui est abîmé. Il fait toute chose belle en son temps. Cela suggère une action par petites touches, par bienfaits limités. Toute chose est belle en son temps, à sa place, pour la durée qui est la sienne, pour ce qu'elle doit accomplir, pour ce qu'elle peut apporter. Cela fait penser au coup de pinceau des pointillistes. Il en résulte une invitation à saisir comme un don de Dieu chaque joie simple de la vie. Mais cela laisse espérer aussi un temps où l'on découvrira l'œuvre entière de Dieu, du commencement à la fin, comme dit l'Ecclésiaste, avec cette même signature. Ce désir d'une totalité achevée, nous le portons en nous. Et l'Ecclésiaste souligne que Dieu l'a implanté au fond de nous. Même, nous dit-il, il a mis l'éternité dans leur cœur, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous aspirons à plus qu'aux réalités fractionnées que nous découvrons dans notre vie. Le mot « éternité » désigne les temps éloignés dans le passé ou éloignés dans le futur, et dans une perspective qui peut être soit indéfinie, soit infinie. C'est ce que suggèrent les termes qui sont employés en relation avec ce mot « éternité ». C'est ce qui subsiste par-delà la fugacité des choses dans notre texte. Et dans notre texte, ce mot s'oppose au temps fractionné de notre existence. Mais il qualifie aussi l'œuvre globale que Dieu fait et qui durera toujours, le olam, hein, pour toujours, et qui est définitive. Ce qui caractérise donc l'éternité, c'est ici sa permanence par-delà les temps et la complétude en contraste avec tout ce qui ici et maintenant ne tient pas, n'aboutit pas. Et nous portons cette aspiration en nous, c'est Dieu qui l'a plantée dans notre cœur. On sait l'universalité d'une telle aspiration. Comment l'interpréter ? Est-elle une projection que nous créons pour compenser les manques de nos vies, pour conjurer notre finitude ? Ou est-elle au contraire le signe d'une réalité autre pour laquelle nous sommes faits ? L'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un peu des deux. L'aspiration à l'éternité jaillit de la frustration de nos existences heurtées. Mais s'il y a cette frustration, c'est que Dieu nous a fait pour plus qu'une existence où tout s'abîme dans la finitude. Et lui-même entretient en nous et la frustration et l'aspiration. Mais il le fait parce qu'il nous veut du côté de l'espérance. Mais, continue l'Ecclésiaste, nous ne saisissons pas, nous ne pouvons pas saisir la totalité de l'œuvre de Dieu. Nous restons dans le monde fractionné qui est le nôtre, tout en aspirant à autre chose. Nous n'avons qu'une toute petite partie de la vision globale, tout en aspirant à découvrir le grand projet de Dieu. C'est l'invitation à une espérance qui reste toujours humble. Que faire alors ? Les spiritualistes diront, puisqu'il y a l'éternité et qu'elle surpasse infiniment tout ce qui est relatif et limité, ne nous occupons que d'elle. Les matérialistes rétorquent qu'il nous faut au contraire apprivoiser et assumer la finitude. Rien ne tient, alors jouissons-en, mais sans illusion. L'Ecclésiaste nous invite à une autre attitude. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Autrement dit, le temps présent, dans ses limites, n'est pas absorbé dans la tout-englobante éternité. Manger, boire, se réjouir au milieu de son travail garde une consistance, même face à l'éternité. Et ceci parce que c'est le même Dieu qui donne l'un et l'autre. Son grand dessein débouche sur l'éternité, mais il inclut le temps, nos temps si limités et si fragiles. L'Ecclésiaste ne joue pas l'éternité contre le temps, parce que c'est le même Dieu qui donne l'un et l'autre, qui s'investit pour l'un comme pour l'autre. Et il nous faut développer un regard qui valorise toute l'œuvre de Dieu, celle dans l'infiniment petit de notre vie, celle dans l'infiniment grand de son projet global. Dieu inscrit ses dons dans le relatif. Autre perspective, l'Ecclésiaste poursuit en disant que ce que Dieu fait durera toujours. Non pas chaque chose, chaque don, mais l'ensemble de son œuvre, l'ensemble de ce qu'il construit. Autrement dit, le projet aboutira. Cela n'évite pas les bégaiements de l'histoire. Tant de choses du passé que l'on croyait finies reviennent avec d'autres amis, habillés simplement. Combien de fois n'a-t-on pas dit « plus jamais ça » et l'histoire se répète tristement. Et c'est ainsi que l'Ecclésiaste souligne « ce qui a été, ce qui est, a déjà été, ce qui sera, a déjà été, Dieu ramène ce qui est passé ». Ça fait partie des limites imposées à un monde sans Dieu, pour qu'il ne s'absolutise pas lui-même. Il ne faut pas voir ici une conception cyclique du temps. la flèche du temps est affirmée par l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ce qui bégaye, ce n'est pas le temps, mais c'est l'histoire humaine avec ses recommencements et ses limites. Si Dieu fait revenir ce qui a été, ce n'est pas du point de vue de la temporalité, mais c'est du point de vue de l'histoire. Dieu marque ainsi les limites de la condition humaine, auxquelles on n'échappe pas, malgré tant d'affirmations prométhéennes du progrès humain. L'aboutissement du plan de Dieu inclut aussi un jugement sur le mal. Dieu jugera le juste et le méchant, nous dit l'Ecclésiaste. Dieu rétablira les choses face à toutes les injustices du monde présent. Un temps pour toutes choses, c'est aussi un temps pour le jugement de Dieu sur toutes choses. La perspective est essentielle car elle montre que Dieu ne transige pas avec le mal. Et ce propos a une portée eschatologique car il répond au questionnement de l'Ecclésiaste sur les méchants qui meurent aujourd'hui sans recevoir la rétribution de leurs actes. Le temps du jugement fait donc partie de l'œuvre que Dieu fait dans sa totalité, dans l'horizon de l'éternité. Quelques mots pour terminer. Les perspectives de vie concrète sont ouvertes par ce texte, sont riches et importantes pour bien vivre sous le ciel. Accueillir les bienfaits limités. Donner à chaque temps sa vraie valeur. Reconnaître la complémentarité de nos temps. Accueillir leur diversité. Accepter que tous ne portent pas tous les fruits que nous en attendons. L'Ecclésiaste nous invite ici à une humilité bienfaisante. Mais ce texte nous invite aussi à une confiance fondamentale. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à ajouter, rien à en retrancher. Dieu mènera jusqu'au bout son œuvre, par-delà et avec nos temps parfois si heurtés. En face de cette œuvre achevée, dans toutes ses potentialités d'éternité, on pourra dire « Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher ». Je vous remercie pour vos attentions.